Bonjour à chacun, à chacune d'entre vous. Heureux d'être là, encore ce matin. Louer le Seigneur, l'adorer de tout notre cœur. Alléluia, c'est ce que nous avons fait. Amen, mais on veut vraiment le faire de tout notre cœur. On l'a fait, hein, mais on veut continuer encore à le faire. Donc, saluer ceux et celles qui, ce matin, nous ont rejoints. Voilà, soyez les bienvenus au milieu de nous. Et sentez-vous à l'aise. Et on va voir ensemble, on va continuer sur donc, la lancée de la semaine dernière. La semaine dernière, vous vous rappelez de ce qu'on a partagé? Ben, en fait, on a parlé de l'Église, c'est la rentrée. Et la rentrée, et on a posé finalement les fondations que l'on trouve dans la parole de Dieu. Ces fondations, hein, c'est voilà, l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Et c'est ce à quoi nous voulons évidemment engager l'Église, hein, donc poursuivre. Parce que finalement, c'est ce que l'on fait, mais nous fixer sur ces choses-là qui sont fondamentales pour la vie de l'Église. Ce matin, on va donc un second volet sur l'Église, parce que finalement, c'est tellement important de pouvoir enseigner sur ce qu'est l'Église, parce qu'on le voit que finalement, dès qu'on donne notre vie au Seigneur, nous rentrons dans un combat avec l'ennemi qui essaye de déstabiliser l'Église. Et il essaye, mais en tout cas, le Seigneur nous a dit que nous allions remporter la victoire autant que nous restions près de lui et près de ce que lui, il a prévu. Alléluia. Et ce que nous désirons pour l'Église ici à Toulouse-Saint-Agne, ce que nous désirons, c'est être l'Église que Dieu veut. Ça, c'est vraiment important. Hein. Et justement, c'est le titre du partage de ce matin. Et quand on dit... on aurait pu dire l'Église que Dieu veut, mais également l'Église que nous voulons être. Parce que ça dépend de chacun d'entre nous. Et pour avoir tourné un peu, aller dans certaines églises, hein, comme le frère Denis, évidemment, a pu le faire, ou d'autres prédicateurs, hein, on voit, quand on va dans certaines églises ont leur particularité, même si le fondement reste le même, mais certaines particularités. Par exemple, si vous allez sur Carpentras, vous allez voir que la louange, c'est vivant, c'est spontané, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vivant ici, mais c'est une autre expression de la louange. Hein, tout ça pour dire que chaque église a sa particularité et on veut tendre vers les choses que le Seigneur nous conseille dans sa parole. Alors, quand on pense et quand on dit quelle église nous voulons être, en fait, certains pourraient dire que ce n'est pas une question à se poser. Moi, je dis que c'est une question essentielle, finalement, à se poser, parce que c'est tellement important. Et donc, en ce début d'année scolaire, donc, voir ensemble l'Église que nous voulons être. Tout d'abord, on va faire une lecture et vous dire que c'est le premier point. Nous voulons être une Église de pierre vivante. Alléluia. Pas de pierre à moitié endormie ou plus grave, morte, sans vie, mais une église de pierre vivante, et c'est ce que nous dit donc l'apôtre Pierre dans son épître, 1 Pierre chapitre 2, verset 4, deux versets d'introduction ce matin. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour sa parole. Tout d'abord ici, il y a deux réalités. La première des réalités, c'est que nous sommes invités à nous approcher de lui. Et quand on répond à cette invitation, alors c'est un peu, on le retrouve dans un autre verset où le Seigneur dit, ben, celui qui s'approche de moi, moi, je m'approche de lui. Ça c'est une certitude pour chacun et chacune d'entre nous ce matin. C'est lui qui a ce désir de s'approcher de Dieu, alors lui, il s'approche de nous. D'ailleurs, il l'a déjà fait. Il s'est approché de nous en envoyant son Fils Jésus-Christ. Ça c'est le plus grand cadeau qu'il ait pu nous faire, nous approcher de lui. Et ici, il spécifie, mais qui peut s'approcher de lui? Pierre vivante. Et c'est ce que nous sommes finalement. Donc, deux réalités ici en relation avec l'Église. La première réalité, c'est que la pierre vivante, c'est Jésus. Jésus, c'est la pierre vivante. D'ailleurs, Jésus est appelé le rocher. Et le rocher, on devine pourquoi il est appelé le rocher. Parce que c'est le rocher sur lequel l'Église est bâtie, sur le fondement de Christ. Et un peu plus tard, donc il y a des écrits où ils disent, dans la parole de Dieu, où il est dit, en fait, le fondement également des apôtres. Mais tout d'abord, c'est le fondement de l'Église et le rocher. L'Église est bâtie sur le rocher. La qualité première à laquelle on pense, quand on pense à rocher, évidemment, c'est la solidité. C'est la fiabilité des choses. Et nous, pour l'avoir expérimenté à maintes reprises, ben, nous nous sommes aperçus que, oui, le Seigneur, lui, ne change pas. Il reste le même. Il est fiable en tout temps et en toutes circonstances. Et on peut s'appuyer sur lui. Oui, il est le rocher de ce siècle. Et d'ailleurs, il y a cette belle image où le peuple dans le désert, à un moment donné, vous vous rappelez de cette histoire avec Moïse. Il nous a dit que ce rocher-là, auquel ils ont bu, c'était l'œuvre et la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc le rocher, c'est lui. Et ce matin, nous pouvons nous appuyer encore, avoir confiance que si on a fondé, nous, notre vie sur ce rocher, alors on est en sécurité. Alors nous aurons une vie fiable et solide. Amen. Quand on pense à la réalité donc des pierres vivantes, Jésus, la pierre vivante, tout d'abord, Jésus, en tant que pierre, cette signification, cette image pour chacun d'entre nous, ce matin, c'est tout d'abord une pierre angulaire. La pierre angulaire, on le retrouve un peu plus loin dans la même lecture qu'on a fait en introduction. Donc 1 Pierre chapitre 2 et le verset 7 nous dit « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Amen. Ça a été repris également dans le livre des Actes, chapitre 4 et le verset 11. On s'aperçoit donc ici que Jésus est appelé la pierre angulaire, c'est-à-dire la tête de l'angle. Cette pierre sur laquelle on bâtit pour que la fondation, pour que tout l'édifice puisse bien coordonner, puisse tenir face aux attaques que l'on peut recevoir. L'honneur est donc pour vous. On a cet honneur de pouvoir faire partie de cette construction à laquelle le Seigneur nous appelle. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. J'aimerais dire que finalement, si on veut bâtir une vie solide, notre vie doit être bâtie sur le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, et tout commence par lui et avec lui. Tout a toujours rapport avec notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Et nous voulons suivre ses enseignements, nous voulons nous y attacher plus que jamais, parce que les ténèbres s'épaississent, les temps sont compliqués, mais on n'est pas surpris parce que le Seigneur nous l'avait dit et nous l'a prophétisé qu'il y aurait des temps difficiles, mais nous voulons nous attacher au Seigneur, alléluia, et bâtir nos vies sur cette pierre. J'aimerais faire cette petite parenthèse, peut-être pour que celui et celle qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, l'importance de bâtir sur du solide. Et le solide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Avant de connaître le Seigneur, pour la plupart d'entre nous, en fait, nous avions bâti sur des choses tellement faibles, friables, qui finalement, à la première épreuve, premier vent, première tempête dans nos vies, tout s'écroule. On l'a pu expérimenter dans nos vies. Mais quand on bâtit notre vie sur le Christ, alléluia, alors c'est sûr et certain qu'on va tenir. D'ailleurs, il y a une parabole qui nous a été donnée dans Matthieu chapitre 7, bâtir notre vie sur le roc, alléluia. Alors la tempête, elle vient, ou si elle n'est pas encore venue, elle viendra. Certains pourraient me traiter de prophète de malheur, mais en fait, c'est le lot de la vie, hein, ça. Les problèmes, les difficultés, mais donc dans cette petite parabole, il y a les mêmes épreuves, les vents qui viennent et qui se jettent sur les deux maisons, mais celle qui tient, c'est celle qui est bâtie sur le roc. Alléluia. Et l'invitation du Seigneur pour chacun d'entre nous, ceux qui ont déjà bâti leur vie sur le roc, c'est d'y rester. C'est de veiller à cela. Et ceux qui ne l'ont pas fait, surtout pas tarder, ce matin déjà, repasser dans notre cœur, se poser les bonnes questions et se dire, mais est-ce que ces choses-là sont vraies? C'est ça, ouvrir notre cœur. Hein. Est-ce que, émettre l'hypothèse que c'est vrai. Chercher le Seigneur, parce qu'il y a un enjeu qui est éternel. Et Dieu n'est pas disposé à ce qu'aucun d'entre nous, ce matin qui sommes là, soyons perdus pour l'éternité. Dieu veut nous sauver. Amen. Cette pierre angulaire, bâtir sur du solide. Ensuite, Jésus, en tant que pierre, c'est donc tout d'abord la pierre angulaire, ensuite la clé de voûte. C'est la partie centrale hein, de la construction, sa présence qui maintient tout l'édifice en équilibre. Toujours émerveillé de savoir que cette parole que nous apportons, elle ne se contredit jamais. Jamais, jamais. Tout ça pour dire qu'il y a un équilibre. Et nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à vivre une vie équilibrée. Alors quand on le dit comme ça, ça peut paraître, hein, on peut acquiescer ou pas. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que l'équilibre est difficile à trouver. Mais si on se base sur notre Seigneur, qui est lui la clé de voûte, la partie centrale, alors tout l'édifice va tenir en équilibre. Et cette Église a besoin de continuer à être bâti sur la clé de voûte, la partie centrale qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Est-ce que vous connaissez le commandement qu'a laissé le Seigneur ? De nous aimer. Eh oui, hein, de nous aimer. Alors, que l'amour grandisse au milieu de nous, hein, encore et toujours. Et ce, de façon concrète. Hein. Des choses réalistes, pas simplement en parole. Des fois, il faut le dire aussi, hein, en parole, pouvoir se dire que l'on s'aime. Je le disais il n'y a pas si longtemps, moi je ne suis pas quelqu'un qui dit spontanément comme ça que j'aime, mais avec le Seigneur, on apprend. Hein, on apprend à pouvoir exprimer nos sentiments et dire ben, finalement, on est ensemble, on est frères et sœurs, et on s'aime de l'amour du Seigneur qui nous unit. Alléluia. Que son nom soit béni. Donc, la clé de voûte est également donc, la pierre de fondement. Vous voyez, toutes ces images, elles se ressemblent quelque peu, mais il y a quand même certaines différences pour finalement nous faire comprendre que c'est sur lui que nous voulons fonder, oui, notre vie et finalement l'Église, alléluia, la pierre de fondement. C'est l'Église qui est fondée sur Christ. 1 Corinthiens, chapitre 3, et le verset 10 et 11 nous dit, 1 Corinthiens 3, 10 et 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Ici, il n'y a rien à rajouter. Il y a simplement qu'à expérimenter ces choses-là. Donc, aucun autre fondement, mais savoir Jésus-Christ, c'est ce que nous voulons. Alléluia. Donc, la première réalité que nous voyons par rapport à l'Église, que nous voulons être une Église de pierre vivante, ça, c'était la première réalité. La deuxième réalité, c'est que désormais, nous-mêmes, nous sommes devenus, donc, les membres de son Église qui sont des pierres vivantes. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Devenir une pierre vivante, ce sont les hommes sauvés qui deviennent par la foi en Jésus-Christ, enfants de Dieu, et donc forcément, par conséquence, des pierres vivantes. Alléluia. Amen. Regardez ce que nous dit ce verset que nous connaissons, mais que c'est bien de pouvoir se le rappeler ce matin. Jean chapitre 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, on s'aperçoit ici que ben, le Seigneur, il se reçoit. À ceux qui croient en son nom. Ici, ça nous parle de foi et de confiance. Alors, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quel privilège! Frères et sœurs, chers amis qui êtes là, tous ceux et celles qui ont reçu donc la parole, qui ont reçu le logos, le rhéma du Seigneur, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ça, c'est une grâce et un privilège vraiment merveilleux. Et ce matin, nous tous qui avons expérimenté ces choses-là, nous sommes au bénéfice donc de devenir et d'être des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des gens de la maison de Dieu, nous ne sommes plus des étrangers. Nous avons été adoptés par le grand Dieu de l'univers. Amen. Et donc, nous sommes sa famille. Alléluia. Et nous devenons des pierres vivantes, bien en vie. Alléluia. Zélés pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que nous, en tant que Français, je le sais, je sais comment ça se passe. Souvent, ça se passe à l'intérieur. Alors certes, ça se passe à l'intérieur, et je le crois, mais également, il faut qu'à un moment donné, ça puisse également jaillir, parce qu'on réalise, la grandeur, la beauté de l'œuvre qui a été accomplie, et ce à quoi le Seigneur nous appelle, nous qui sommes maintenant devenus des pierres vivantes. Donc tout d'abord, on voit que nous sommes nous-mêmes devenus des pierres vivantes. Mais également des pierres travaillées. Le Seigneur travaille jour après jour. Il travaille tout ce que nous sommes. Parce que finalement, moi je ne sais pas à quel âge vous avez donné votre vie au Seigneur. Moi je l'ai fait à l'âge de 30 ans. À 30 ans j'ai donné ma vie au Seigneur. J'avais une religion évangélique. Je suis né dans une famille chrétienne. Donc j'avais une religion évangélique. Et puis un jour, révélation de Christ. Et donc j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 30 ans. Et là, je me souviens, peut-être que vous avez fait la même erreur que moi, je ne sais pas. Je me suis dit, ah ça y est, c'est terminé. Je suis en route vers le ciel. Alors c'est une réalité. On est en route vers le ciel. Et puis le Seigneur, il a commencé à affiner, à travailler la pierre, un caractère. Alors moi j'aime le dire comme ça, j'avais le caractère donc qui n'était pas compatible avec l'appel du Seigneur dans nos vies, un caractère fort. Enfin, non, il faudrait qu'on arrête avec cette expression, un caractère fort. Il faut simplement dire un mauvais caractère. Finalement c'est ça, si on est réaliste, c'est ça. Quand on dit un caractère fort, non, c'est un mauvais caractère. C'est comme ça que le Seigneur le qualifie. Et puis le Seigneur, il travaille nos cœurs, travaille finalement notre caractère, et jour après jour. Et vous savez, quand le Seigneur travaille notre vie, notre caractère, je ne sais pas si vous faites cette prière, Seigneur, change-moi, change mon cœur. Et quand on fait cette prière, c'est une belle prière, quand on fait cette prière, spontanément, ce qui va se passer, c'est qu'on pense qu'on va se réveiller un matin, et puis les choses, elles vont changer. Alors, c'est pas ça, C'est en fait, le Seigneur va utiliser chaque instant de notre vie afin que nous puissions réussir le test. Parce que ça, c'est le test de la foi. Et tant qu'on réussit pas, on passe pas à la classe suivante. On redouble. Certains, j'ai pu le découvrir dans plusieurs églises, c'est que certains redoublent depuis le début. Non, je le dis sous une pointe d'humour, mais c'est dramatique. Quand des personnes qui ont donné leur vie il y a plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qu'ils en sont encore au lait spirituel, excusez-moi, mais je le dis comme ça, à se prendre un peu la tête pour tout et n'importe quoi, un manque de maturité, moi je trouve que c'est dramatique. D'ailleurs, dans la parole, on le trouve. À un moment donné, l'homme de Dieu va dire, mais en fait, je suis étonné de ce que vous ayez encore besoin de lait. Alors que vous devriez être des personnes matures, des personnes qui sont équilibrées, des personnes qui mangent donc de la nourriture solide. Et la nourriture solide, on sait ce que c'est. Vous savez que le lait, c'est car Dieu a tant aimé le monde, Dieu même. Et de se l'entendre dire de la part de Dieu, ça bouleverse notre cœur. Et ça c'est le lait de la parole qui nous dit que finalement Dieu nous aime. C'est une bonne chose et il faut commencer par là. Mais on doit aller plus loin. Et plus loin, c'est quoi la nourriture solide? C'est qu'on doit se charger chaque jour de notre croix. La croix, c'est peut-être pas le problème ou la difficulté que je traverse en ce moment. C'est pas ça la croix. Hein. Des fois, on dit, ouais, je passe par des situations difficiles. C'est un chemin de croix. Alors, certes, c'est une difficulté, mais c'est pas ça. C'est se dépouiller. C'est laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs, qu'il n'y ait pas dans nos vies de la résistance. Parce que souvent, on s'aperçoit qu'on résiste là où le Seigneur veut nous amener, et on résiste. Et on l'a expérimenté, vous l'avez expérimenté, quand à un moment donné, nous-mêmes, on résistait au Seigneur, quand nous avons abdiqué, ça c'est un joli mot, hein, quelque chose à appliquer, quand nous avons abdiqué devant le Seigneur, quand nous nous sommes résolus à dire « Seigneur, donc désormais, maintenant, à partir de maintenant, je te laisse faire. » Et c'est là qu'on peut entendre le Seigneur nous dire « Enfin. » Et oui, parce qu'en fait, c'est le but qu'il poursuit, c'est de travailler notre cœur. Donc, laissez le Seigneur nous former, nous façonner, intérieurement, extérieurement, alléluia. Ces dimensions concernent évidemment la conversion, le baptême, la vie spirituelle, la vie sociale, familiale, et tous les aspects de la sanctification, alléluia. Est-ce que vous savez que nous avons été appelés à la sanctification? Quelque chose de tellement important, hein, parce que sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. La sanctification, c'est cette mise à part, cette pureté avec le Seigneur. Alors, nous voulons nous laisser travailler, façonner par le Seigneur. Alors, certains pourraient dire, mais c'est quand même difficile. Et certes, c'est difficile, hein, mais le Seigneur va nous y aider. Alléluia. Si nous plaçons notre foi et continuons à nous fixer un objectif, amen. Certains ont des plans de carrière, hein, dans leur vie, et c'est bien, et il faut en avoir. Mais il faut avoir, en premier lieu, un plan de carrière spirituelle. Savoir ce que l'on veut avec le Seigneur. Et je crois qu'on serait tous d'accord, hein, si on avait posé la question, ben, notre désir, c'est de plaire à Dieu. Je dirais, Seigneur, ma vie, elle t'a été offerte, elle t'a été donnée. D'ailleurs, on a fait une confession donc publique quand nous nous sommes donnés au Seigneur. Alors cette parole, on doit la tenir et nous laisser travailler par le Seigneur. Ensuite, nous qui sommes les pierres vivantes, nous sommes des pierres serties. Ah, c'est la partie qui devient peut-être un peu plus intéressante pour nous tous. Jésus-Christ nous porte sur son cœur et sur ses épaules. Alléluia. Quand nous sommes fatigués, nous pouvons nous appuyer sur lui. C'est le symbole de son amour et de sa puissance. Alléluia. Nous sommes au bénéfice de l'amour de Jésus-Christ. Ce matin, si je me tiens debout devant vous, si vous êtes là, c'est grâce et à cause de l'amour de Christ déversé sur nos vies. Amen. Et quand nous sommes fatigués, donc harassés par les situations difficiles, alors le Seigneur nous prend sur ses épaules. C'est l'image de la brebis, hein, celle qui s'est perdue. Quand il la retrouve, il a ses 99, en sécurité, donc ça c'est la particularité. Puis il va chercher celle qui s'est perdue, et quand il l'a trouvée, qu'est-ce qu'il fait? Il ne la sermonne pas, comme nous peut-être on aurait pu faire. Il ne la sermonne pas, mais il la prend sur ses épaules parce qu'elle a été fatiguée, elle a été blessée par la vie. Quelle belle image pour chacun d'entre nous. Alors une pierre sertie. Les enfants de Dieu sont précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes des gens précieux, nous ne sommes pas n'importe qui. Hein. Il va le dire donc, dans son épître, hein, donc Pierre, que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Et souvent, on peut entendre des fois dans les prières, « Seigneur, je suis rien. » Alors évidemment, il y a une part de vérité, sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Mais quand on a donné notre vie au Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes maintenant des enfants du Seigneur, nous avons de la valeur, et d'ailleurs, on le voit partout dans la parole, avec toutes les promesses du Seigneur, c'est qu'il veut nous valoriser, pas pour que, en fait, notre tête ou nos chevilles enflent, mais que nous soyons rassurés de cela, que nous puissions vraiment être au bénéfice et se dire, mais j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, le Seigneur même, alléluia, et c'est merveilleux. Alors l'Église, oui, que nous voulons être, c'est une Église de pierre vivante. L'Église que nous voulons être ou devenir ou continuer encore, c'est être une Église en mouvement. Être constamment en mouvement. Alors il ne faut surtout pas confondre une Église en mouvement et une Église agitée. Une Église qui va de l'avant. Alléluia. Amen. Et Quand on plonge les regards dans le livre des Actes, la naissance de l'Église, assez tôt va venir la persécution. Rapidement, va venir la persécution. Avec la persécution, ce qui va se passer, c'est que, en fait, certains vont être éparpillés, et par la grâce de Dieu, on voit que Dieu, il poursuit quand même un plan. Et ces personnes, donc, qui avaient fait cette rencontre avec le Seigneur, éparpillées un peu partout, avec, au fond de leur cœur, ce désir de poursuivre, donc, d'annoncer le message de l'Évangile, alléluia, et en fait, le monde est inondé du même message. Le message reste le même, alléluia. La façon de l'amener, aujourd'hui, on a des façons différentes de pouvoir amener le message, mais le fond reste le même. D'abord, on l'a dit dimanche dernier, d'abord, ça commence par une mauvaise nouvelle, c'est de dire que, finalement, sans le Seigneur, nous sommes perdus pour l'éternité, que nous sommes des pécheurs. Mais, il y a le « mais » de Dieu, Dieu a prouvé son amour, il a donné son Fils à la croix du calvaire pour nos vies. Amen. Donc une église en mouvement, c'est une église qui progresse parce que chacun de ses membres a à cœur de progresser. Oh, il n'y a pas d'amen, mais je laisse la parole agir dans vos cœurs. J'espère que vous avez le désir de progresser aux yeux du Seigneur, parce que sinon ça voudrait dire, ça y est, je me suffis à moi-même, et quand on a cette attitude-là, on est forcément en danger. Il faut évidemment qu'on progresse et qu'on aille de l'avant. J'aimerais dire que si chacun a le désir de progresser, alors la progression, elle sera là. Parce que le Seigneur va nous y aider, il nous a mis ensemble, alléluia. Donc, avoir à cœur de progresser. Regardez Actes 9, verset 31. J'aime beaucoup ce verset. Actes 9, verset 31. L'Église était en paix. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Rien qu'avec ce verset, on pourrait faire toute une série de prédications. On voit tout d'abord que l'Église était en paix. Et je crois que nous recherchons une Église en paix. L'Église de Carpentras, ça m'a été répété, certains qui ont fait la rentrée comme nous, donc qui m'ont appelé, parce qu'évidemment, il y a les relations que nous avons les uns avec les autres. Ils me disaient, l'Église continue d'être en paix. Alléluia, ça c'est une bonne nouvelle, de savoir que l'Église est en paix. Vous savez que c'est quelque chose de précieux, à laquelle chacun d'entre nous devons veiller, c'est de garder une église en paix avec le Seigneur, en paix avec les uns et les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de situation difficile à gérer, mais si on a ce désir vraiment de plaire au Seigneur, alors on va les régler naturellement, des fois en se demandant pardon tout simplement. Demander pardon. Ah, des fois ça vient nous chercher, des fois on rentre dans des discussions. Oui, mais c'est pas moi qui ai tort, c'est la situation. Et puis finalement, la parole de Dieu nous dit, mais tu sais, quand tu t'approches de Dieu, que tu vas apporter ton offrande, le Seigneur lui dit, ben, laisse-la ton offrande. Va d'abord te réconcilier. Et ensuite, viens. Et des fois, ce pardon, il doit être accordé. Et nous devons veiller à ce que nous soyons en paix les uns vis-à-vis des autres. Alléluia. L'Église, donc comme elle était en paix, et vous voyez, il y a un rayonnement de l'Église. La Judée, la Galilée et la Samarie. Alors, elle s'édifiait en marchant, comment ? Dans la crainte du Seigneur, la crainte, avant que ce soit une peur, la peur de Dieu. Certains font des choses par peur de Dieu. Mais en fait, la crainte, c'est tout simplement le respect de Dieu. On respecte le Seigneur, on s'approche de lui avec révérence. Amen. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande de respecter l'endroit où l'Esprit de Dieu se manifeste, cet endroit-là. Ce n'est pas par rapport aux quatre murs, c'est par rapport à la présence du Seigneur. Alléluia. Et dans nos vies, nous voulons continuer de respecter le Seigneur. Alléluia. Amen. La crainte du Seigneur. Alors, ce qui va se passer, on va dire la chose normale, donc, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Ces choses, donc, elles sont valables également pour nous. Si tous ces principes-là sont trouvés dans l'Église de Sainte-Agne, Alors l'Église, elle va s'accroître. Et c'est le désir de chacun d'entre nous. Un jour, j'ai entendu quelqu'un me dire « Oh, nous sommes dans une petite Église, on est 40 ou 50, ça suffit. » Alors je lui ai dit « Il faut qu'on se voit rapidement. » Parce que si c'est ça, la vision de l'Église, on a tout faux. L'Église, c'est gagner des âmes, pas pour faire du chiffre, du nombre, mais de pouvoir gagner les âmes, une à une, alléluia, amen. C'est pas la pêche là au filet, où on tire, on ramène tous les poissons, c'est la pêche à la ligne, un à un. Et on a vu tout à l'heure la valeur d'une âme, et combien le Seigneur, donc lui-même, sait la valeur d'une seule âme. Le Seigneur veut toucher les cœurs au travers de l'Église, alléluia, donc, et des pierres vivantes que nous formons. Le même verset d'Actes 9, 31 de la version Sommer nous dit « Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, elle vivait dans l'obéissance au Seigneur, et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. » Alléluia. Si vous avez l'opportunité, aujourd'hui sur Internet, on peut voir le même verset avec différentes versions. Regardez ce même verset, Actes 9, 31, dans la version Semeur. Elle est vraiment parlante. Et ces choses-là, donc quand elles sont trouvées dans une église, alors l'église va, elle est dans le mouvement. Amen. Un exemple de mouvement où Dieu a remis en route certains personnages dans la parole. Abraham, donc, qui a été arrêté par l'autorité de son père. On sait que les sentiments, oui, plus forts que la volonté de Dieu, il est reparti après la mort de son père. Abraham reçoit une parole du Seigneur à quitter l'endroit où il se trouve, quitter sa patrie avec une promesse de Dieu. Des fois, on peut avoir une vision hollywoodienne de la lecture de la Bible. Parce qu'on connaît, on sait comment se terminent à peu près les histoires. Et on voit comment ça se passe. Mais en tout cas, il a fallu quand même que la foi soit mise en action, parce que recevoir un message de Dieu, pouvoir se l'appliquer, et ensuite avoir la patience pour que ces choses-là arrivent. D'ailleurs, vous avez vu, vous le voyez, au travers de sa vie, par rapport à sa vie, il va y avoir de l'impatience. Et comme la promesse, elle tarde, elle a tardé pour lui, il va essayer de donner un coup de main à Dieu. C'est ce qui s'est passé. Il va essayer de donner un coup de main à Dieu. Surtout, frères et sœurs, laissons Dieu agir comme il veut. Demandons-lui la patience pour attendre ce qu'il nous promet. Amen. Donc, on s'aperçoit que le Seigneur l'appelle à quitter sa patrie. Si vous lisez à la fin de Genèse 11 et le début de l'histoire d'Abraham, Genèse 12, vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir une halte de quelques années, parce qu'ils vont partir avec, il va partir avec son père, ses frères, donc forcément son neveu, l'autre, car qui ensuite va poursuivre avec lui. Et ils vont être arrêtés, où ça? À Charan. Acte 7, versets 2 à 4. Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, afin qu'il s'établît à Charan, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Alors si on lit ce passage, on se dit, tiens, le Seigneur l'a appelé à Charan. Non, non, non. La promesse était pour le pays de Canaan. Et donc, il y a eu une halte ici. Et si vous lisez la suite, vous allez vous apercevoir que là, il y a eu la mort du père de Lot. Le père de Lot est décédé là, donc le père d'Abraham aussi. Et en fait, à Charan, il y a eu comme une halte de quelques années. Ils se sont arrêtés là, mais en fait, l'appel était pour aller au pays de Canaan. Et des fois, dans la vie des chrétiens, il y a une halte qui est là. De par les circonstances qu'on peut vivre. On a été comme arrêté. Et le Seigneur nous demande de pouvoir repartir. Est-ce que vous savez la définition du mot Charan, de la ville Charan? C'est le lieu de petits fruits. Le lieu de petits fruits. Et des fois, dans la vie de certains croyants, il y a peu de fruits. Pourquoi? Parce qu'on s'est arrêté à l'endroit où on pense que là, voilà, on a été blessé, meurtri par la vie, des circonstances qui nous ont affligés, comme laissés à terre. Et peut-être que ce matin, il y a un appel à se lever, à repartir, parce que le Seigneur a déposé des choses dans ton cœur et il veut les accomplir. L'endroit où tu te trouves, c'est pas là, c'est pas la fin de l'étape. C'est de poursuivre, de continuer et d'aller de l'avant, alléluia, et d'aller dans le pays promis. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Le Seigneur a mis des rêves dans ton cœur, hein, des choses pour le servir. Ce matin, le Seigneur te demande de pouvoir te lever à nouveau et compter sur sa grâce. Alléluia. Parce que le Seigneur n'a pas fini avec chacun et chacune d'entre nous. Amen. On s'aperçoit dans ce passage qu'on a lu qu'il y a une apparition personnelle de la part du Seigneur. On ne sait pas dans quelles circonstances Abraham a reçu cette parole de Dieu. Mais en tout cas, il l'a reçue de façon extraordinaire, et le message était clair. Va et quitte ton pays. On sait que quand on donne notre vie au Seigneur, il y a des choses qu'on doit quitter absolument. Des fois, on attend. Hein. Des fois, il faut être radical. Nous sommes des radicaux. Hein. Rien à voir avec la politique ou quoi que ce soit. Mais en fait, on est radical. Le Seigneur lui-même l'a été. Hein. Il l'est. Radical, hein. Noir c'est noir, et puis blanc c'est blanc, il n'y a pas de juste milieu. Et avec certaines choses, on doit être radical, on doit couper absolument. Le message qui est clair, message à partir, à quitter. Donc il y avait une étape ici qui durait, et peut-être qu'on est dans cette situation, une étape qui dure, mais le Seigneur nous demande d'abandonner le passé. Pas de ne plus nous en rappeler, mais de l'abandonner. Certains vivent encore avec le passé. Les blessures infligées par le passé. Laissons le passé au passé et regardons vers l'avenir, vers ce que le Seigneur a prévu pour chacune de nos vies. Alléluia. Alors la promesse, elle va s'accomplir, hein, on le sait, pour la vie d'Abraham. Et à un moment donné, il va donc se ressaisir, il va prendre ses affaires, et il va prendre son neveu et il va repartir. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse que la parole à qui ça s'adresse ce matin, tu puisses te lever, repartir, là où le Seigneur t'avait appelé, alléluia, pour un but, une destination finale, amen. Il y a également quelqu'un qui était en mouvement et qui a été arrêté, c'est Élie. Quand on pense à Élie, on pense à un homme de prière, hein, un homme de défi, alors que il y a une confrontation avec les prophètes de Baal. Ben lui, il a quand même cet état d'esprit, cet état de cœur. Et puis, on retrouve quelques versets plus tard, un homme arrêté par la crainte, assis sous un genêt, demandant la mort. Waouh ! Quand même, hein ? Je ne suis pas mieux que mes pères. Donc, un certain abandon d'un certain état d'esprit, il est arrêté ici, et puis on sait comment le Seigneur va le rebooster, comment le Seigneur, il va l'encourager, alléluia, en envoyant ce dont il avait déjà besoin matériellement, hein. Il avait besoin de vitamines pour pouvoir se lever et marcher. Et je crois que la meilleure des vitamines pour nos vies, elle est là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors après avoir mangé la nourriture préparée par Dieu, avec les forces que cela lui a procurées, il a pu se lever et aller là où le Seigneur l'attendait. Amen. Il y a eu également David qui a été arrêté, alors qu'il était en mouvement. Un homme avec un état d'esprit, moi je ne sais pas, hein, mais quand on trouve dans la Bible que David était qualifié d'homme selon le cœur de Dieu, ce n'était pas les autres qui le disaient, c'était Dieu lui-même qui disait, voilà, un homme selon mon cœur, quand même, il faut le porter le titre. Donc ça prouve qu'il quand même, il avait quelque chose de louable, de fort dans sa vie. Et pourtant, il a été arrêté à un moment donné. Il a été arrêté par le péché. Ce péché qui nous enveloppe si facilement. Mais après avoir exprimé devant Dieu son état. On retrouve ces psaumes, hein, psaume 32, 51. Si vous le lisez, on voit ici comment il reconnaît son péché. Mais je m'aperçois, il reconnaît son péché, mais il a fallu quand même que Dieu puisse envoyer le prophète Nathan pour l'interpeller. Parce que lui, il avait une attitude un peu chevaleresque. Hein. Et puis, le Seigneur nous donne aussi de l'intelligence, du tact, de la sagesse, de la douceur également, pour pouvoir aller rectifier une situation face à un frère, une sœur. D'ailleurs, c'est la petite parenthèse. Hein. Si un jour, le Seigneur, le Saint-Esprit, met quelque chose dans votre cœur, tout d'abord, avant d'être prompt à aller voir la personne, prier. D'abord, on prie. Ensuite, si ça persiste, ben ensuite, il faut aller voir avec les mots du Seigneur. Et moi, je crois, on l'a expérimenté, hein, que quand on est rempli de l'amour de Dieu, que nos sentiments, ils sont bons, ils sont nobles, alors on peut dire certaines choses. Après, si en face, la personne s'offusque, bon, mais c'est elle qui aura des comptes à régler avec le Seigneur. Mais en tout cas, nous, on veut le faire de tout notre cœur. Et c'est ce qui s'est passé pour Nathan, au travers d'une petite histoire. Et lui, David, il dit, mais cet homme-là, il mérite la mort. Mais cet homme, c'est toi. Waouh. Mais au lieu de dire, ben non, c'est pas moi, les circonstances, oui, mais c'est parce que... Donc il a été arrêté. Mais il est reparti. Alléluia. Amen. Et c'est ce que, finalement, le résumé de nos vies. Hein. Combien de fois nous avons été arrêtés? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici au milieu de nous qui ne s'est jamais dit, c'est terminé. J'arrête. C'est dur. La vie avec le Seigneur. J'ai plus de force. Ça nous est tous arrivé. Je crois, hein, si on a deux secondes d'honnêteté ce matin, ça nous est tous arrivé. Mais ces hommes-là, ils sont repartis, alléluia. Ils ont été arrêtés, mais ils sont partis. On a besoin pour cela de faire un bilan personnel. Et ce matin, on a besoin de faire un bilan pour chacun et chacune d'entre nous. Quel élément a pu m'arrêter? On a vu au travers de ces hommes, certains éléments qui les ont arrêtés. Quel élément a pu t'arrêter? Ça, c'est entre vous, c'est personnel, c'est entre vous et le Seigneur. Mais en tout cas, entendez l'appel de Dieu à vous lever et à repartir. Amen. Quelle église nous voulons être? Passe au point suivant. C'est une église conviviale. La convivialité au milieu de nous. Amen. On connaît le psaume 133, verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, alléluia, la communion fraternelle, de pouvoir se retrouver ensemble, c'est une bénédiction, alléluia, que Dieu soit béni. Donc, on s'aperçoit que dans l'assemblée de Philadelphie, hein, dans le livre de l'Apocalypse, elle est représentative de cette sorte d'église dans laquelle il fait bon vivre. Que nous soyons connus pour être une église conviviale, où il fait bon vivre, où tous ceux et celles qui viennent du dehors, quand ils passent le pas de la porte, ils puissent trouver ici un havre de paix, la présence de Dieu, l'action, l'onction du Saint-Esprit au milieu de nous, qui va convaincre les cœurs, alléluia, et qui va les bouleverser, amen. Regardez ce qu'il est dit, Apocalypse 3:8, « Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, vous voyez la fidélité, ça paye à un moment donné, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alléluia. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Amen. La convivialité, finalement, c'est la base de l'Évangile. Jésus est par excellence rempli de convivialité. Avec ce verset de Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi. » Ça, c'est de la convivialité. Hein. « Venez pas à quelqu'un d'autre. » Venez pas à une religion, à une dénomination, venez à Jésus. Ensuite, évidemment, on va se rattacher à une église, une dénomination, mais d'abord venir à Jésus. Et peut-être que c'est l'appel à entendre ce matin. Venir à Jésus, donc on voit la convivialité et également l'accueil, sans distinction de race d'abord, sans distinction de personne, de par qui nous sommes. Seigneur nous appelle tous à venir, alléluia, et d'être dans cette convivialité. La convivialité, avant tout, c'est un état d'esprit. C'est être rempli du Saint-Esprit, hein, finalement. C'est une volonté et un désir à manifester. Romains 14, verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Est-ce que cette partie, on la sort ? La dernière partie ? Et non, hein, on ne peut pas faire ça. Hein. On garde la parole telle qu'elle. En fait, on n'a pas à discuter. La personne qui est faible dans la foi, on doit simplement le discerner. Discerner où en est chacun, on n'a pas à discuter, mais simplement être convivial, commencer. Donc, avant tout, c'est un état d'esprit, vouloir et le désir et la volonté de le manifester. Commencer par les choses les plus simples de la convivialité. Persévérance dans la vie spirituelle de l'Église. On doit être convivial, c'est ça, hein, c'est être là à chaque fois que le Seigneur nous convoque. J'aime bien dire, employer ce terme. On répond finalement à la convocation du Seigneur, hein, pas une convocation forcée. C'est une convocation de cœur, amen, rattachée au lieu de prière, amen. Parce que vous savez que la vie de l'Église, le poumon, hein, la respiration, c'est la prière, finalement, la réunion de prière. Et que Dieu fasse qu'on soit connus également pour être des hommes et des femmes qui intercèdent, alléluia, qui implorent la grâce de notre Seigneur pour cette nation qui se perd. Évidemment, c'est la réunion de prière, c'est un bon moyen de pouvoir s'intégrer à l'Église, pouvoir être là, combattre, entendre les sujets de prière, et nous-mêmes, donc, être partie prenante de cet appel. Connaître les autres et se faire reconnaître d'eux, c'est là aussi une forme de convivialité. Des qualités à développer, la bienveillance pour être convivial, être bienveillant. L'amabilité, la prévenance, ça aussi, hein, c'est la convivialité. Romains chapitre 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Le mot qui est important, c'est plein ici. Par amour fraternel, soyez plein d'affection. Alléluia. Et que cette affection, elle puisse se manifester les uns avec les autres. Pas simplement qu'avec la sphère de frères et de sœurs, de connaissances avec lesquelles j'ai des affinités. Ça ne s'explique pas. Il y a des personnes... par exemple, on les rencontre pour une première fois et on a la sensation qu'on s'est toujours connu, il y a de l'affinité qui passe, ça ne se commande pas, ça. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais également, être convivial, chacun pour sa part, pour aller voir l'autre, celui que je ne connais pas, faire l'effort nécessaire. Des fois, ça coûte de par notre caractère. Des fois, on a un caractère un peu réservé, on n'ose pas. Être convivial, c'est accueillir celui qui passe le pas de la porte, alléluia. Ce que nous voulons, donc, être une église conviviale, et puis je termine par là, nous voulons être également une église prête pour le retour du Seigneur. Pas qui se prépare, une église prête pour le retour du Seigneur. Jonathan, tout à l'heure, l'a prié, comme ça, dans sa louange. Le retour du Seigneur, c'est également l'espérance de l'église. On a une espérance dans notre cœur, et cette espérance, elle ne trompe pas. C'est une certitude dans notre cœur que Jésus va venir rechercher les pierres vivantes que nous formons. Amen. Donc 1 Thessaloniciens 4, verset 17 nous dit, « Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. » Alléluia. Que le Seigneur fasse, que nous puissions le voir. Peut-être certains vont le voir, ou alors voilà, ça va se passer d'une autre manière par rapport à ce que nos yeux se ferment ici-bas sur terre. Mais en tout cas, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Amen. Il y a cette parabole, vous savez, des vierges, en fait, tout d'abord c'est des vierges, hein, donc 5 sont qualifiées de sages, d'autres 5 autres de folles, insensées, hors de sens, parce qu'à un moment donné, il est dit, Matthieu 25, verset 6, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Aller à la rencontre du Seigneur. Ce jour-là, l'épouse de l'agneau sera dans la joie complète. Amen. La mort n'existera plus. La maladie, les souffrances Alléluia, amen. Les guerres, les injustices auront disparu et nous allons passer l'éternité, alléluia, dans la gloire de notre Dieu. Ça sera tellement merveilleux. Ça, c'est une espérance qui s'attache à notre cœur. Amen. Et pour cela, il y a un appel à veiller. À veiller sur nos vies. Veiller à ne pas laisser le voleur percer la maison. Matthieu 24, 43. Veillez à cause de la soudaineté de son retour. En un clin d'œil, ça va vite, hein? Un clin d'œil, les choses vont se passer. Luc 12, 37. Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. On connaît tous ici des personnes qui ont fait une belle confession de foi, qui se sont données, ont donné leur vie au Seigneur. Et puis, avec le temps, ils ont reculé, ils ont rétrogradé jusqu'à maintenant vivre des fois. Moi, je connais personnellement quelqu'un. Il y a des personnes comme ça, ça fait partie un peu des mystères. Je vous promets, il avait une facilité pour amener des gens à l'église qu'à la base, je n'avais pas. Et il avait une facilité, il parlait avec les gens, il allait dans la rue, il revenait toujours avec des personnes. Les réunions d'évangélisation, à chaque fois il y avait des personnes nouvelles que lui amenait. Des fois c'était plusieurs personnes. Et donc on voyait chez lui quand même quelque chose de particulier. Juste pour faire un résumé de sa vie, si vous le voyez aujourd'hui, sa vie est en ruine, tombée dans l'alcoolisme, loin de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une faille dans sa vie, il n'a pas veillé sur sa vie. Et ensuite, il a été emporté. On prie pour qu'à un moment donné, dans sa grâce, le Seigneur ait pitié de lui. Et l'appelle, l'interpelle, on le croit, de tout notre cœur. Et c'est à cela que nous sommes appelés, évidemment, à faire veiller, prier pour ne pas tomber en tentation. Celui qui est debout ce matin, prenne garde de ne pas tomber. Alléluia. Veillez sur notre vie, mais également veillez et travaillez dans l'attente du grand jour, alléluia. Donc c'est pas une veille passive, c'est une veille en travaillant pour l'œuvre de Dieu. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. On l'a dit dimanche dernier, pas besoin de qualifier, mais simplement de gens disponibles. Seigneur, je suis là. Peut-être à prier, à intercéder, faire des choses qui ne se voient pas. Je sais pas si je l'ai dit ici, mais on a posé la question à quelqu'un, on lui a dit... Vous savez, quand on fait un saut en parachute, quelle est la personne la plus importante? La personne la plus importante, c'est celle qui a plié le parachute. Et celle-là, personne ne la voit. Elle est dans le secret, mais elle est importante pour le saut en parachute. Et je crois que dans l'Église, moi je bénis Dieu, parce que l'Église elle doit être une fourmilière. Tout le monde doit être trouvé en train de servir le Seigneur. Alléluia. Quand on parle de service... Et on parle de petites choses, des choses qui ne se voient pas. Si, je suis sûr, il n'y aurait pas de difficulté si je disais, je ne sais pas, dimanche prochain, je ne suis pas là. Rassurez-vous, dimanche prochain, je suis là. Dimanche prochain, je ne suis pas là. J'ai besoin de quelqu'un pour me remplacer ici sur l'estrade. Je pense qu'il y aurait pas mal de candidatures. Par contre, dans les services qui ne se voient pas, je prends cet exemple, le ménage. Souvent on dit que cet endroit, c'est notre maison. Dites-moi, qui est disposé de laisser sa maison comme ça sans faire le ménage? Qui? Si c'est réellement le cas, on doit pouvoir s'engager. Et si on s'engage tous, alors, moi j'ai cet exemple, je le disais hier à quelqu'un, s'il y a une charge de 50 kilos, 50 kilos, je peux le prendre. Mais il va falloir que je force. Puis à un moment donné, ça peut me fatiguer sur la longueur. Si on est deux, ben déjà, on pourra aller plus loin. On va moins se fatiguer. Et si on est trois, quatre, vous avez compris l'exemple. Des fois, il faut prendre sur soi et faire des sacrifices. Je sais que vous le faites pour la plupart. Mais je parle pour chacun d'entre nous à pouvoir s'engager vraiment dans les petits services. J'ai pris cet exemple, il y en a plein d'autres, évidemment, c'est sous couvert du responsable, des responsables de l'Église, parce qu'évidemment, on ne met pas au service. Voilà, il faut avoir des vies qui correspondent, qu'on soit cohérent en fait, hein, qu'on soit cohérent avec ce que l'on veut faire. Mais en tout cas, gardez ça dans votre cœur. Jusqu'au retour du Seigneur, on doit être trouvé en train de servir. Et même dans ces tâches-là, c'est pas une corvée, parce que certains voient les choses, ces choses-là, ces tâches-là comme une corvée. C'est pas une corvée, c'est une bénédiction. Même de passer le balai, c'est une bénédiction, alléluia, que le Seigneur voilà, puisse vraiment impacter nos cœurs afin que vous puissiez aller voir Aline et que Aline, en fait, je la retrouve avec le sourire dans quelques instants, enfin, dans quelques temps. Alléluia. C'est pas que pour le ménage, vous comprenez très bien, j'ai pris cet exemple-là, mais c'est pour les petites choses à faire dans l'Église. Certains ont une vision, vous savez, on rentre dans l'Église, puis on bénéficie de la louange, de la prédication, la salle est propre, mais tout le travail qui a été fait en amont. On le voit, c'est pas forcé qu'on le voit, les répétitions, ceci, cela, préparation, mais ça c'est pour la gloire de notre Seigneur, alléluia. Et vous savez, moi je connais le Dieu, le grand Dieu de l'univers, qui lui n'est redevable de personne. On ne le fait pas pour ça, on ne le fait pas pour qu'il nous bénisse. Mais on a réalisé la grâce qui nous a été accordée, et en fait, c'est un plaisir de pouvoir être au service de notre Seigneur. Alléluia. Alors veillons à travailler dans l'attente du grand jour. 1 Thessaloniciens 5, verset 6, l'avant-dernier verset. « Ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés, soyons sobres. » Et le dernier verset, Luc 12, 37. « Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant, je vous le dis en vérité, il se scindra et les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » Alléluia. Lui, le maître, alléluia, il rentre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle à un peu de choses. Moi, je veux l'entendre, le Seigneur me le dire. Quand je vais me retrouver devant lui, il dira, rentre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle à quoi? Un peu de choses, finalement. Que le Seigneur nous aide à réaliser tout ça. Alors voilà l'Église que nous voulons être, à laquelle le Seigneur s'attend à ce que nous soyons, ou nous devenions, ou que nous persévérions, alléluia, dans ces choses-là. Alors, une chose est certaine, c'est que nous verrons des grandes choses parce que nous avons un grand Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ta parole, cette parole qui est la vérité, Seigneur mon Dieu, et ce matin, nous avons pu la partager, Seigneur, et c'est ce que nous voulons, Seigneur, aspirer, Seigneur, à l'Église, selon ton cœur, Seigneur, aide-nous à veiller, Seigneur, sur les bases fondamentales de l'amour, Seigneur, de la convivialité, et Seigneur, oui, c'est toi qui bâtis ton Église. Merci pour les pierres que tu rajoutes jour après jour, ceux qui s'engagent encore et toujours. Seigneur, je te remercie pour tous ceux et celles, Seigneur, qui sont là depuis tant d'années, Seigneur, et qui tiennent ferme. Bénis-les, continue de les bénir, Seigneur, dans leur vie, dans leur foyer, Seigneur mon Dieu, dans leur famille, Seigneur, que, Seigneur mon Dieu, il soit des bénédictions, Seigneur mon Dieu, pour les gens qu'il côtoie. Seigneur mon Dieu, nous voulons te prier également pour la semaine qui arrive, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, de ces serviteurs qui sont attentifs à ce que dit le Maître. Seigneur mon Dieu, utilise mes frères, mes sœurs, afin d'être ces témoignages, Seigneur mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Nous te disons, à ton nom seul soit toute la gloire. Merci, ô notre Dieu. Amen. Alléluia.